Vous écoutez La Troisième Rangée, votre podcast des sorties cinéma pour une critique de film au complet, bande-annonce.
Ça te dit quelque chose? 500 000 réfugiés cherchent un abri en France. Tu crois qu'ils méritaient ça? Les fils de fer barbelés dressés pour laisser mourir de faim, de froid, de maladie, frappés, humiliés.
Régalez-vous!
Alors, il y avait bien quelques gestes.
Tenez, c'est pour vous.
Joseph est un film franco-espagnol et belge réalisé par Aurel. Et ça parle d'un dessinateur qui s'appelle Joseph, qui a été enfermé dans un camp de concentration au début de l'année 1939 en France, comme un demi-million de ses compatriotes qui ont fui le régime franquiste.
C'est sympa de se rappeler que c'était en 39, ça. Hein.
Oui.
C'est un peu le truc qu'on a totalement oublié. On se dit, ah là là, on a démarré la Seconde Guerre mondiale, les Allemands ont été affreux. Nous, on était des grands héros. Bon, il y en a qui ont dû faire des choses, mais c'était pour nous sauver. Non, on a aussi été des véritables enflures. Hein. C'est bien de nous le rappeler des fois. Voilà, c'est vrai que le régime franquiste, on a tendance à pas du tout se rappeler que c'était à cette période-là. Et alors, le fait qu'on avait des camps de concentration pour les réfugiés et qu'on les a bien maltraités, on a bien zappé aussi.
Oui, on évite de trop en parler dans l'histoire.
Voilà, ça c'était du coup le roman national, voyons.
Bah, bien sûr, oui.
Donc ça c'était pour le petit point histoire, voilà, qui rebelle un petit peu et qui est bien appuyé dans le film, hein, pour qu'on se rappelle bien, ouais. Peut-être des fois avec des trop gros sabots, mais pour bien nous rappeler que... Ah, on était des gros cons, mais bon, c'est comme ça. Hein. Nos grands-pères n'étaient pas des gens merveilleux.
Toute la France n'a pas été résistante, mais qu'est-ce qu'on a pu dire, hein.
Moi, le mien, je crois qu'il était résistant.
Il m'a dit, je vais pas te parler du mien, mais t'inquiète pas, il y a beaucoup de bouquins, il y a beaucoup d'éditions de Rivarol chez mes parents. Voilà, je veux dire, je sais dans quel cadre j'aurais été élevé si, selon certaines conditions et certaines époques. Mais du coup, en fait, ce qui est intéressant, c'est si on prend le personnage de Joseph, tout simplement, c'est un gars qui a résisté à sa condition par ses dessins. Et du coup, j'ai envie de dire, le fait que ce soit un dessinateur qui décide par l'animation et le dessin en partie figé de justement raconter cette histoire, c'est tellement signifiant et tellement malin.
Ça pouvait pas mieux se passer.
C'est clair, quoi. Donc du coup, c'est ça, le mec fait, tu t'es rebellé par le dessin, je vais raconter une histoire par des dessins.
Ouais.
Donc j'aime beaucoup la manière dont c'est axé. Donc justement, cette espèce de film d'animation qui à la fois... va se faire le jeu de tableau régulier, donc on a du dessin qui est à la fois animé, à la fois très figé, et qui va s'alterner avec des dessins du coup de Joseph, sans que ça paraisse trop putassier, en mode c'était quand même un grand dessinateur, donc je vais en montrer 3 tonnes, mais ça axe le récit, c'est assez important. Et des fois, en fait, tu pourrais presque faire une sorte de court-métrage roman photo avec juste les dessins de Joseph, qui pourrait te raconter la même histoire, et du coup il rajoute juste du liant à peine ce qu'il faut, en fait, entre chaque dessin, on va dire, pour raconter son histoire et distiller son récit. Il y a des choses qui m'ont moins plu, mais en tout cas, dans la forme, c'est assez brillant.
Bah, moi qui... Voilà, je pense que j'aurais eu moins 2 au bac s'il y avait histoire de l'art. Typiquement, je connaissais pas du tout l'histoire de Joseph Bartoli, et en allant voir le film et sans m'être plus renseigné que ça, je pensais que c'était purement fictionnel, quoi. Et à un moment, je me suis quand même posé la question en me disant, c'est quand même hyper dense et hyper riche en termes d'univers, quoi. Et il doit bien y avoir quelque chose. Et c'est finalement vers la fin du film où j'ai quand même commencé à comprendre qu'en fait, il s'agissait vraiment d'une personne qui existait. Et c'est vrai que c'est une des forces du film pour moi, c'est la capacité à la fois raconter une histoire simple qui tienne sur 1h30, mais à la fois raconter une espèce de grande histoire par le biais d'un homme, quoi. Et du coup, le film est hyper riche, que ce soit sur son fond, mais aussi sur sa forme, parce que tu l'as dit, Thierry, il y a différentes techniques d'animation. Et pour moi, ça a été aussi un des gros points forts du film, c'est-à-dire de voir comment on peut adapter l'animation. Enfin, en fait, c'est tout le cinéma, quoi. Comment on peut adapter sa mise en scène à son sujet. Et moi, c'est une des choses qui m'intéresse le plus. Et j'aime beaucoup les auteurs qui, à défaut de coller une patte, coller leur style sur un sujet, essayent de plutôt fondre le style sur le sujet. Je sais pas si c'est très clair ce que je veux distinguer, mais là, c'est une des gros points forts du film.
Surtout que le film se passe sur deux époques, Parce qu'on suit le récit d'un ancien gendarme qui était gardien du camp de Joseph. Et c'est lui, du coup, qui sert de narrateur.
Voilà, d'où les deux formes de...
Et du coup, dans le présent, on a une animation manière plus classique.
Moderne.
Ouais, mode moderne. C'est du 16-24 images secondes.
Fluide, c'est ça. Tout coloré.
Tandis que dans les camps, on a vraiment un aspect carte postale... avec des fois
un aspect même esquisse par moment,
oui, tout à fait, où on va voir même des dessins en train de Joseph en train de se faire, comme si bon, je pense à cette image qu'on voit des camps en train de se construire, où on a comme si on avait les différentes étapes du camp qui se dessinaient devant nous sur le même dessin, et avec au final cette figure du gendarme moustachu horrible qui apparaît comme un espèce de diable qui survole tout, qui apparaît au centre, et qui est un personnage qu'on retrouve en plus dans le film, qu'ils ont rendu bien antipathique, mais en même temps c'est fait exprès. Et on a, et ce qui est plutôt intéressant, c'est que même si le film se déroule du point de vue du gendarme normalement, on a quand même beaucoup de scènes où on est dans la psyché de Joseph, qui voit justement ce gendarme moustachu se transformer en un cochon en habit de gendarme. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, l'ami gendarme de Joseph aussi permet de faire la narration du point de vue français et qui nous amène notamment à la fin du film. Bon, c'est une réflexion du coup, qu'on peut se faire pendant le film, et à la fin, il nous tapit bien dessus. Le fait que les gendarmes, quand ils ont accueilli les opposants franquistes et quand ils ont collaboré après avec les nazis, en fait, ils ont fait exactement le même travail. Pour eux, ça faisait pas vraiment de différence. C'était juste, tu bossais un peu. C'est juste les personnes avec qui tu traitais qui n'étaient pas exactement les mêmes, mais pour eux, ça ne changeait pas grand-chose. C'est à peu près le même travail qu'ils faisaient.
D'ailleurs, il tient un discours à un moment donné, c'est ce que les anciens gendarmes tiennent aussi sur leur activité durant la Deuxième Guerre mondiale. Il dit on avait des ordres, on a été obligé de faire certaines choses. Il le dit de la même manière que le discours qu'on peut entendre sur une histoire plus connue, en tout cas sur la période de l'occupation.
Ou ce qu'on a entendu après pendant les procès de Nuremberg, c'est exactement ce discours-là on suivait les ordres. Et même si quand même le personnage du gendarme, à un moment, rentre dans une résistance, mais il n'est pas... c'est pas le mec qui va faire sauter des trains, il va faire des tracts.
Et puis c'est plus par rapport à un rapprochement amical qu'il a avec Joseph qu'une opinion politique.
Il y a un moment, il a eu un déclic, il a décidé de se rebeller et d'aider une personne. Mais ce qu'on retrouve aussi un petit peu, parce qu'on a la présence aussi de carabiniers africains qui sont présents au camp, qui donnent aussi une perspective sur le fait qu'il y avait les colonies encore à cette époque. Et un personnage qui sont plutôt intéressants, parce qu'à plusieurs moments, ils vont tenir des discours, notamment un où c'est... ils ont amené des prisonniers espagnols pour aider au champ, et en repartant, chaque prisonnier espagnol, les gens du village leur ont donné une miche de pain et une bouteille, et t'as les gendarmes qui décident de tout récupérer pour eux, et il y en a un qui refuse de donner ses denrées, et t'as un des carabiniers qui s'approche de lui et qui lui dit alors je sais plus exactement c'est quoi ces mots, mais en gros c'est il y a des moments où faut savoir résister, il y a des moments où faut savoir
plier,
et là c'est le moment de plier, ce que le personnage refuse de faire, et ce qui va l'emmener ce qui va le condamner à mort derrière.
Ouais, tu vois l'espèce de hiérarchisation qu'il y a dans la domination, quoi. Enfin, ou en tout cas l'évolution historique de ceux qui ont accepté déjà leurs conditions de dominer et ceux qui doivent la subir encore. Et pour moi, je passe du coq à l'âne, mais pour moi, un des gros points forts du film, c'est aussi de rappeler que dans l'animation, faire appel à des comédiens pour interpréter les rôles et pas à des youtubeurs, ça change vachement ça change vachement ce qui se passe, quoi, finalement à l'écran, parce que là il y a des...
On va y revenir, mais
t'es pas d'accord.
Gérard Hernandez est très bon quand même,
je trouve Gérard Hernandez et Bruno Solo pas mauvais. Je trouve finalement le seul pas bon, à mon sens, c'est l'ado, et qui c'est qu'il fait, un youtubeur? C'est le mec du Palmacho.
David Marseille, ouais. Pour moi, non, c'est pas que David Marseille.
Je sais.
Mais je pense que le personnage, c'est pas un cadeau aussi.
Mais en plus, on peut faire jouer un ado par un ado aussi. On peut commencer par là aussi.
Il est plutôt jeune, David.
C'est mieux.
Après, le film, donc je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, mais je trouve que ça manque un peu de lâcher prise formelle quant à l'art de Joseph, quoi. Je trouve que Alors, effectivement, on voit plusieurs de ses dessins, mais il aurait fallu un moment où la forme du film se marie avec l'art de Joseph, qu'on oublie le contexte politique et autres, où il y ait quelque chose qui passe par le visuel ou...
c'est un peu le cas quand même parfois.
Moi, j'ai pas tellement l'impression.
En fait, je trouve que le.
Il y a un mariage qui. Il y a le discours qui est que d'accord.
Oui, bien sûr.
Il y a l'esthétique de Aurel où il essaie d'essayer le contexte avec son esthétique à lui. Et puis il y a les dessins de Joseph. Mmh. Et
oui, il n'y a pas une réunion.
Même une scène, hein. Même une scène.
Ouais, t'as raison.
On oublie, on lâche tout ce qui est politique et puis on a au moins une. Une belle scène formelle où il y a un peu de poésie, ça manque un peu.
Ce qui n'empêcherait pas d'être politique en plus.
Oui. Même la démarche formelle, en fait, je l'ai trouvée très intéressante au début, mais assez usante sur la longueur, parce que quand même la plus grande partie du film, c'est des flashbacks, donc la plus grande partie du film, c'est ces faux fixes, en fait, ces plans donc, qui sont pratiquement fixes, en fait. Hein. C'est juste plusieurs versions du même plan avec des traits qui bougent un petit peu, qui sont mis en boucle pour donner cette illusion, en fait, d'un trait qui tremblote un peu. Et en fait, quasiment tout le film, du coup, c'est ça. C'est des faux fixes où l'action va être initiée par les dialogues, par les bruitages, par ce genre de choses. Ça marche très bien, mais j'ai l'impression que ça aurait peut-être gagné à n'utiliser cette technique que de manière plus parcimonieuse, peut-être pour faire ressortir certains moments dans le film, que ce soit des moments plus d'émotion ou des moments qui vont plus se rattacher, encadrer les dessins de Joseph, je ne sais pas, mais en tout cas, servir à faire ressortir des moments plutôt qu'à être un outil narratif qu'on retrouve tout du long et qui, au bout d'un moment, je trouve, rend le film un petit peu difficile à digérer.
Et est-ce que ça, c'est pas une question de moyens, tu crois?
Je me suis posé la question. À la séance où j'étais, le producteur était là et a dit quelque chose qui... Enfin, il a dit que lui, à la base, il savait pas comment faire de l'animation. Et je me suis posé la question, je me suis dit dans quelle mesure c'est pour juste économiser un peu. Après, je pense pas, parce que tu vois, au générique, il y a l'effet spécial qui est un studio d'animation montpellierain qui avait fait Dilili à Paris, aussi le dernier film de
Michel Oslo.
De Michel Oslo. Enfin, il y a quand même de l'expertise derrière. Mais effectivement, je pense qu'avec cette technique, le film a quand même coûté beaucoup moins cher que si c'était du 24 images secondes. Donc si le film avait des contraintes budgétaires qui ont fait que il n'a pas pu avoir l'ambition d'une autre animation et que ça lui permet d'exister, j'en suis très contente, hein, et il a trouvé un moyen vraiment intelligent de faire ça. Mais après, c'est vrai que j'aurais pas été contre quelque chose d'un petit peu plus dynamique.
Sans forcément voir si ça m'avait dérangé ou pas, parce qu'en effet, il y avait quand même des moments où j'avais un peu de mal à accrocher avec la narration visuelle, en tout cas. J'ai quand même l'impression que c'est assez volontaire, dans le sens où, c'est ce qu'on disait, on a quand même l'histoire de ce grand-père qui raconte un petit peu tout ça. Et on voit aussi qu'il est âgé et que ses souvenirs commencent à se parsemer un petit peu. Et c'est pour ça que je trouve que c'est un récit qui est énormément dans les bruitages, parce que il ne va plus se souvenir de ce qu'il a vu, par contre il va se souvenir de ce qu'il a ressenti.
Donc il y a le côté sensoriel.
C'est pour ça que ça m'a semblé assez logique, en fait. Et justement parce qu'on a la distanciation avec quand il est dans le présent, là il voit ce qui se passe. Donc même si il pourrait raconter ce qui s'est passé 5 minutes avant, on le verrait peut-être de la même manière. Mais oui, forcément, plus on plonge dans sa mémoire, il confond un peu les choses et forcément, ses souvenirs sont assez flous. Et je trouve que c'est très subtil là-dessus. Et il y a un contraste, du coup, avec... on va y venir sur le doublage. Alors moi, j'ai énormément de mal avec des comédiens qui font du doublage. J'aime beaucoup les comédiens de doublage, parce que je trouve qu'ils sont au service des personnages.
Je vois ce que tu veux dire.
Là où les comédiens vont être aussi au service... leur propre service. Et il y a un souci avec ça, c'est qu'on sait qui ils sont et qu'on les reconnaît. Et moi, ça me pose toujours un petit souci.
Je suis pas d'accord pour tous dans ce film.
Mais en tout cas, quand ce sont des comédiens connus.
Irlandaise, on connaît ça.
Clairement, lui,
ça passe tout seul.
Il a fait beaucoup de doublage aussi. Mais en tout cas, pour les comédiens.
La partie présent, en fait.
Même David Marsay. Ou en tout cas, quand on voit, je vais citer un exemple là, quand on voit Coé dans Garfield. Dès l'instant que tu. En plus, on y va. Enfin, là, ça va, ça n'avait pas été vendu sur justement les acteurs qui ont doublé.
Étonnamment, d'ailleurs.
Et encore heureux. Mais c'est vrai que. que quand on voit ce genre de choses, on a tendance à penser à ça. Quand on va voir un Astérix de Astier, on est content de reconnaître la voix et ça nous sort un peu du personnage. Alors là, c'est, quand c'est dans des cases humoristiques, ça passe. Mais c'est vrai que là, il y avait des moments où je me disais, ouais, je reconnaissais trop justement telle ou telle personne.
Mais ça a été vendu spécialement sur mon doublage, j'ai pas l'impression.
Non, non, pas du tout. Mais justement, c'était juste comme moi, ça m'a dans l'expérience, en fait. Ouais. Tu vois, ça... Et du coup, j'ai trouvé que ça perdait un peu en subtilité à ce moment-là. Et que le film, pour bien accentuer sa violence, avait des ressorts des fois un petit peu grossiers. Les racistes qui sont très racistes, les trucs qui sont très prononcés. D'un autre côté, je me dis, quand on veut raconter ce genre de récit qui a été d'une telle violence pour ces personnes, on est obligé d'être un peu criard, quoi. Donc, c'est pas tant à charge contre le film, mais c'est vrai qu'il y avait des moments où, du coup, ça me sortait un peu du récit et je me disais, bon, est-ce qu'il faudrait le retirer? Pas tant que ça, parce qu'il faut que le message passe, mais peut-être penser à, voilà, peut-être le faire autrement, quoi, je sais pas. C'est... Mais en tout cas, ça. Ça m'a fait tiquer, quoi.
Ouais, c'est marrant, je me suis beaucoup plus laissé porter aussi certainement par le fait que moi j'ai été moins sensible à ce que Lila dénonçait d'un point de vue animation, enfin, c'est-à-dire que ça m'a un peu embarqué et que j'ai trouvé la musique aussi très belle et du coup je me suis vachement laissé embarquer dans le film. Certainement voilà, sans remarquer les gros traits qu'il pouvait y avoir.
On peut finir pour disant qu'au moins Joseph nous aura permis de découvrir cet artiste qu'on connaissait pas, et ça nous permet aussi de redécouvrir une période de la France dont on n'a pas trop entendu parler malheureusement.